Bonsoir, entrons ensemble et jusqu'à 19h dans un temps du débat consacré ce soir au greenwashing ou éco-blanchiment en français et au capitalisme vert.
On veut du green.
On appelle ça le capitalisme vert. Alors ça sonne un petit peu comme le cannibalisme bio.
Il me suffit d'acheter des produits durables et équitables.
Ça s'appelle Ciel mon radis. Nous on fait des potagers participatifs pour les entreprises. On transforme un gazon à l'anglaise en potager pour les salariés. On fait pousser des radis, des courgettes, de la coriandre pour faire une pause verte et retourner au travail avec l'esprit libéré.
Toutes les multinationales sont orientées vers le profit.
Le projet de loi climat et résilience va nous permettre, en tant que citoyens, de pouvoir choisir l'écologie, parce que l'écologie, c'est du bon sens.
Vous êtes complètement tombé dans le panneau.
Il n'y a pas l'ambition du tout des propositions de la Convention citoyenne. Nous, à chaque fois qu'on a fait une proposition, il y avait la justice sociale en face.
C'est la voiture la plus écologique qui existe.
Les plus grands patrons de la planète, à commencer par ceux de Volkswagen, ont sciemment payé des informaticiens pour truquer leur moteur et échapper à des normes qui, de toute façon, étaient déjà très basses.
C'est comme ça que l'illusion verte fonctionne si bien.
Si on n'a pas aujourd'hui cet avion en vert, c'est pour dénoncer le greenwashing du gouvernement sur les fausses solutions vertes.
Ils pensent qu'à l'argent, le fric, le fric, le fric.
Hier, vendredi 5 mars, des militants de Greenpeace se sont introduits sur les pistes de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et ont repeint en vert un avion d'Air France. Le message est clair, dénoncer le greenwashing, la tendance à masquer l'inaction et les bilans carbone catastrophiques derrière un engagement écologique jugé de façade par l'ONG. C'est aussi le constat du rapport CAC degré de trop rendu public cette semaine par Oxfam. L'ONG et une autre estiment que le modèle des grandes entreprises françaises est aujourd'hui insoutenable. La preuve, seulement 8 entreprises du CAC 40 serait dans les clous des engagements de la COP21 en matière de rejet de CO2 dans l'atmosphère. En cause, l'absence de contraintes étatiques fortes, de transparence sur le bilan carbone, d'engagement sur les trajectoires claires de baisse des émissions. Mais plus largement, la question qui se pose, c'est celle de la possibilité même d'un capitalisme vert. Et ce ne sont pas les fonds d'investissement activistes qui ont eu la tête du PDG de Danone, Emmanuel Faber, cette semaine, qui rassureront sur ce point. Ils sont venus rappeler qu'avant de se soucier de la responsabilité sociale et environnementale, une entreprise devrait d'abord faire progresser le cours de ses actions. Alors, il y a pourtant, à la fois dans la loi climat et résilience discutée à partir de lundi prochain en commission spéciale à l'Assemblée nationale et dans les discours des grandes entreprises engagées tout de même dans la transition écologique, la conviction qu'il est possible d'introduire plus de considérations de long terme. Le capitalisme vert est-il un mirage? C'est la question du temps du débat de ce samedi à écouter en direct sur France Culture et comme vous le souhaitez sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Et deux invités et ES ce soir pour débattre de cette question. Claire Tutenuit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ici en studio avec nous, vous êtes la déléguée générale d'EPE, Entreprise pour l'Environnement, qui rassemble une cinquantaine d'entreprises en France, et des grandes entreprises, hein, puisque la moitié sont des entreprises du CAC 40, certaines hein, comme EDF ou Schneider Electric, ont été considérées dans le rapport d'Oxfam que je citais comme de bons élèves, d'autres ont été plutôt épinglées, hein, comme Total, ou les trois grandes banques, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Un mot juste sur EPE, votre fonction, pas à vous, mais la fonction d'EPE.
La fonction d'EPE, c'est d'animer la réflexion collective des entreprises pour justement les faciliter et accélérer leur transition écologique en matière de climat, etc. Donc on organise le dialogue avec les parties prenantes, de la veille scientifique et beaucoup d'échanges de bonnes pratiques de façon à ce qu'elles sachent ce que font les uns et les autres et qu'elles puissent avancer ensemble, et c'est ce qu'elles font.
Et pour discuter avec vous ce soir, et notamment de ce rapport d'Oxfam France, bien la directrice générale, Cécile Duflot, bonsoir.
Bonsoir.
C'est à ce titre de directrice générale d'Oxfam France que vous vous exprimez ce soir à ce micro, mais je rappelle tout de même que vous avez été longtemps secrétaire générale des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, députée et ministre de l'égalité des territoires et du logement dans les deux gouvernements de Jean-Marc Ayrault. On va évidemment avec vous revenir sur ce rapport CAC degré de trop que vous avez publié Oxfam mardi dernier. C'est un rapport qui est sous-titré le modèle insoutenable des grandes entreprises françaises, Cécile Duflot. Ce modèle insoutenable, c'est quoi? C'est le capitalisme?
Ce modèle insoutenable, c'est un modèle court-termiste, alors évidemment capitaliste, puisque ce sont des entreprises du CAC 40, donc elles sont cotées en bourse, et comme vous l'avez indiqué, on a vu récemment ce qui s'est passé avec Danone, cet indicateur-là, leur valeur boursière, est un indicateur souvent prédominant dans leurs choix stratégiques, et ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que c'est en contradiction, souvent, avec la nécessité d'être dans les clous de l'accord de Paris, et plus exactement, de ne pas contribuer à dérégler notre climat et à le rendre insupportable pour l'humanité, tout simplement.
Alors, on va évidemment revenir dans le détail sur ce rapport, mais un mot un peu général. Claire, tu te nuis sur cette idée, finalement, d'un modèle insoutenable des entreprises françaises. Comment est-ce que vous le recevez, cette critique ?
Le modèle des entreprises françaises, c'est le modèle de l'économie française. Et je pense que on ne peut pas séparer les entreprises de leurs actionnaires et de leurs clients. Et dans cette question du court-termisme, les entreprises, quand elles veulent faire du long terme, elles peuvent faire du long terme et elles en font, mais elles sont obligées aussi de tenir compte de la demande des clients et des aspirations du marché.
Donc elles sont bridées, vous diriez, malgré tout, toujours par leurs actionnaires, quand on parle des grandes entreprises comme le CAC 40 ?
Elles ont une demande des actionnaires, mais elles ont aussi une demande des marchés. Je veux dire, on va parler de Total certainement. Si on fermait les pompes ou qu'on disait ben maintenant on va réduire la quantité d'essence sur le marché français, je pense que les consommateurs ne seraient pas contents.
Mais plus largement, est-ce que, Claire Tutenuis, ce qui est en cause ici, c'est pas l'idée, c'est pour ça que j'ai intitulé l'émission « Le capitalisme vert est-il un mirage ?» C'est peut-être un peu général, on va essayer évidemment d'être plus précis et plus spécifique au cours de cette émission, mais c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait en ce moment cette idée que la croissance infinie, l'accumulation sans limite du capital, voilà, c'était peut-être des idées qui arrivaient à leur terme et auxquelles les grandes entreprises n'arrivent pas vraiment n'arrivent pas vraiment à évoluer, sur lesquelles les grandes entreprises n'arrivent pas à évoluer.
C'est une question de fond, tout à fait. Et on y a travaillé en publiant une étude qu'on a appelée ZEN 2050, avec un petit jeu de mots. ZEN, c'est zéro émission nette, et puis c'est ZEN aussi. Et qui était, est-ce qu'on peut faire une France neutre en carbone en 2050, tout en préservant la croissance économique, parce que c'est une étude qui est faite par le monde économique, les entreprises, et des experts, évidemment, et en même temps en préservant des modes de vie diversifiés, agréables, confortables, etc. Donc la réponse est oui, mais il y a des conditions de succès. Et ces conditions de succès sont qu'il y a effectivement beaucoup d'investissements, des transitions importantes à faire et un rôle à jouer par tous les acteurs. C'est-à-dire que les entreprises ont un rôle d'investissement, d'innovation, de financement, de transition professionnelle, de formation, de publicité. Il y a un sujet aussi sur la communication vers le consommateur. Les pouvoirs publics ont un rôle de réglementation. Et je rejoins Cécile Duflo, le rapport d'Oxfam, sur le fait que la réglementation est importante pour la décarbonation, mais aussi de justice sociale, d'équité, de faciliter la trajectoire des plus vulnérables. Et puis les consommateurs, qui sont aussi des salariés et des épargnants, ont un rôle essentiel à jouer aussi. Et donc dire qu'il y a une catégorie d'acteurs, pointer une catégorie d'acteurs, paraît en fait un peu contre-productif par rapport à cet effort absolument collectif, qui est d'ailleurs tout à fait apparent dans les travaux de la Convention du climat.
Cécile Duflo, pourquoi avoir pointé du doigt spécifiquement les entreprises du CAC 40 ?
Alors, on pointe pas du doigt. Nous, on essaye de se dire, c'est le rôle d'Oxfam, hein, c'est de se dire quel est notre objectif. Notre objectif, c'est de lutter contre le dérèglement climatique et contre les inégalités. Voilà, on se cache pas derrière notre petit doigt parce qu'on pense que c'est ça qui crée une société beaucoup plus confortable à vivre pour tous. Et que par ailleurs, pour ce qui est du dérèglement climatique, ça n'est plus une option. Aujourd'hui, on a le choix entre l'extrême catastrophe ou limiter la catastrophe. Il faut se dire les choses assez franchement. Franchement, on est en 2021, ça sert à rien d'inventer une réalité qui n'est pas celle qu'elle est scientifiquement et techniquement aujourd'hui. Et donc, dans ce scénario où on essaye de limiter la casse, il y a différents acteurs qui ont une responsabilité. Les individus, c'est vrai, chacune d'entre nous, en tant que consommateur et dans notre vie quotidienne, mais c'est pas là que se jouent les choses de manière décisive. Carbone 4 a fait une étude passionnante, justement pour montrer si.
Alors Carbone 4, c'est le.
On culpabilise les individus.
Carbone 4, c'est le think tank, plutôt le.
Oui, un bureau d'études. Carbone 4, oui. C'est un bureau d'études qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici et par.
Alain Grandjean.
Alain Grandjean. Qui travaille sur le calcul de l'impact climat de nos activités, de la.
des moyens de s'attaquer à ce modèle, parce que là, peut-être qu'on peut converger, c'est, qui est un modèle insoutenable. C'est-à-dire que les entreprises sont aussi prisonnières de ça. Moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur on fait ce qu'attendent nos clients. Et si on arrête de mettre de l'essence à la pompe, les gens vont pas être contents. C'est vrai. Cela dit, si nous voulons tenir dans une trajectoire inférieure à 2 degrés, on sait qu'il faut diminuer de manière drastique notre consommation de fossiles. Ce qui veut dire qu'il faut travailler sur d'autres modèles de transport, d'autres types d'énergie éventuellement, mais aussi sans doute de rapprocher les lieux de travail et les lieux de domicile, d'avoir plus de transports en commun, de faciliter l'usage du vélo par exemple. Enfin, il y a plein de solutions de retrouver des transports ferroviaires. C'est pour ça que je vais en revenir à l'étude de Carbone 4, parce que ce que Carbone 4 a montré, c'est que 75% du chemin que nous avons à accomplir dépend de politique globale, de politique publique, en tout cas de choix de politique publique. Et c'est vrai que les entreprises, elles jouent leur rôle dans un univers qui est un univers de contraintes, et elles optimisent dans cet univers de contraintes, et elles optimisent souvent pour maximiser le profit de leurs actionnaires. C'est d'ailleurs l'exercice qu'on leur confie. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de dire, dans cet univers-là, quelle est leur part de responsabilité. Et donc, on a parlé dans ce rapport des grandes entreprises du CAC 40, parce qu'elles sont une des très grosses contributions à la production, bien plus que beaucoup d'autres activités. Mais on a fait un rapport sur les banques, on a fait un rapport sur les outils publics de financement que sont la Banque Centrale Européenne, la Banque Européenne d'Investissement, l'AFD, tous les secteurs qui ont les clés pour faire bouger les choses nous intéressent. Et donc, on essaye aussi de mesurer, ça c'est quelque chose qui est parfois un peu désagréable, l'écart entre les discours et les actes. Parce qu'on voit bien que face au climat, les engagements ne suffisent pas, il faut passer aux actes. Donc c'est ce travail-là qu'on a fait avec ce rapport, sur la base d'une méthodologie que nous n'avons pas élaborée, de la même manière que le rapport sur les banques se base sur une méthodologie néerlandaise. Le rapport que nous avons présenté se base sur la méthodologie élaborée par Carbone 4 pour essayer d'objectiver la réalité. Et donc de pouvoir dire que certaines entreprises sont sur un bon scénario, en tout cas elles font des efforts. Est-ce qu'il faut que ça dépende que d'elles et que de leurs décisions ? Non, dans cet univers concurrentiel et effectivement capitaliste.
Oui, on aura l'occasion de revenir sur la question, voilà, sur la question notamment et évidemment des réglementations et de l'encadrement qui peut être fait par les pouvoirs publics, mais j'aimerais qu'on reste encore un petit peu là-dessus, Claire Tutenu, notamment sur ce que vient de dire Cécile Duflot, c'est-à-dire en gros, bon, en effet, il faut peut-être pas pointer du doigt les entreprises, mais en même temps, laisser grandes entreprises du CAC 40, c'est vraiment là que ça peut bouger. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça du côté de
Il y a plus qu'une prise de conscience, il y a des engagements qui ont été pris, qui sont publics, et non seulement qui sont publics, mais qui sont validés. Il y a une organisation internationale qui est formée du WWF, du Global Compact des Nations Unies, du World Resource Institute, qui est une ONG internationale qui fait toutes les mesures, tous les protocoles de mesure de gaz à effet de serre, et par le Carbon Disclosure Project, qui ont formé un groupement pour demander aux entreprises de montrer des engagements de trajectoire, donc d'investissement et de trajectoire de long terme, au moins 2030 ou plus loin. Parmi les entreprises qui sont pointées, il y en a un grand nombre qui sont dans le rouge, il y en a au moins une douzaine, je ne les ai pas toutes pointées, qui ont des trajectoires et qui ont des trajectoires de décarbonation qui ont été validées par cet organisme complètement indépendant. Donc on peut considérer que peut-être que Carbone 4, en prenant des chiffres assez
anciens,
on pourrait anciens ou contestables, le côté émission indirecte
est assez particulier. On va y revenir parce que c'est important.
Mais donc il y a toutes ces entreprises qui ont déjà des stratégies enregistrées, validées, ça a pris du temps à les élaborer et donc elles y sont. Il y en a 4 qui en ont déposé, qui ont proposé à ce SBTI Science Based Target Initiative, donc des trajectoires basées sur la science pour respecter l'accord de Paris. Il y en a 4, c'est les 3 banques qui sont citées, plus AXA, qui ont déposé des trajectoires, mais l'organisme dit « moi je ne sais pas valider vos trajectoires, je ne sais pas dire si elles sont conformes, parce que c'est tellement composite, ça dépend de tellement d'autres acteurs que vous, que je ne peux pas le faire ». Donc ces trajectoires, elles existent, ces entreprises et les banques les suivent, et elles consistent à décarboner, elles sont sorties du charbon, elles réduisent d'autres choses, elles dialoguent. On parle d'éco-conditionnalité. Ces banques dialoguent avec leurs clients et avec les entreprises dont elles sont actionnaires activement, très activement, pour justement financer la transition. Donc, on peut pas. Elles font ce qu'elles disent et elles s'engagent dessus.
Cécile Duflo, évidemment, il faut
revenir. Je vais répondre juste sur ce point particulier, parce que c'est important, parce que c'est vrai que ces sujets-là sont assez techniques, d'une certaine manière, et souvent, on perd un peu les gens. C'est aussi le rôle de nos rapports, et donc j'invite tous ceux qui veulent le lire à le lire. Il figure sur notre site, la méthodologie y figure aussi, et même la méthodologie de manière très détaillée. Et l'initiative SBTI à laquelle fait référence Madame Tutenu, elle est intéressante. C'est effectivement, des trajectoires sont validées, mais cet organisme ne valide pas du tout le fait que ces trajectoires soient réalisées. Typiquement, PSA est une entreprise qui a fait valider par son objet, elle est certifiée SBTI, très clairement, mais aujourd'hui, dans sa stratégie, elle continue de dire qu'elle va faire des SUV, voire qu'elle va supprimer les petits véhicules, et on voit bien que c'est en décalage avec la stratégie initialement validée. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer justement de vérifier l'écart entre le discours et les actes. Si vous regardez, et c'est ce qui a donné lieu à l'affaire du siècle, les engagements qui sont pris...
L'affaire du siècle, c'est le procès que vous avez intenté contre l'État, pour inaction climatique.
Parce que l'État s'est engagé sur de bons engagements, des engagements qui collent avec avec l'accord de Paris. Le problème, c'est qu'il ne met pas en œuvre les politiques qui vont avec. Et avec SBTI, on est dans le même scénario. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, sur le papier, semblent aller dans le bon sens, on fait valider et certifier ces accords, mais ne les mettent pas suffisamment en œuvre, voire parfois sont en divergence avec les stratégies affichées. Et c'est ça qu'on essaye de savoir. Et pour tout dire, c'est parfois compliqué d'avoir les données. Donc nous, notre première demande, c'est que les entreprises soient vraiment transparentes. Comme ça, si elles font des efforts, et vous avez vu ce rapport, on dit aussi que des entreprises font bien, si elles vont dans le bon sens et qu'elles avancent, on sera tout à fait non seulement à l'aise pour le dire, mais même très content.
Claire Tutenu, cet écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait en matière environnementale, ça a un nom, je l'ai déjà prononcé, c'est le greenwashing. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, c'est une accusation, le greenwashing, qui est justifiée, qui est exagérée ?
Je trouve que c'est une accusation qui est très exagérée, au sens où les entreprises reportent sur leur trajectoire. Le dispositif SBTI, il inclut un reporting, et le Carbon Disclosure Project, qui en est membre, reçoit tous les ans les rapports avec les émissions directes et indirectes.
Donc la transparence est là.
Donc la transparence, elle est là. Alors, peut-être que sur la trajectoire, il y a des points, la trajectoire elle-même, je ne sais pas si elle a des points annuels ou des points tous les 2 ou 3 ans, parce que c'est dessiner la trajectoire en 2030, on voit qu'il peut y avoir de temps en temps des volatilités dans la croissance économique ou dans les marchés. Mais en tout cas, il y a un reporting annuel et une comparaison par rapport aux engagements qui ont été pris. Donc ces engagements sont des engagements solides.
Cécile Duflo ?
Je maintiens ce que je dis sur l'analyse de la trajectoire, mais pas sur la mesure des moyens mis à l'horizon de cette trajectoire. Et par ailleurs, il faut quand même se dire qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité où on voit bien, et on parlait du pétrole tout à l'heure, mais on pourrait parler d'autres, où ce qu'il faut organiser, c'est la mutation de l'activité de ces entreprises. Et là, c'est vrai que la question du modèle de développement, c'est pas seulement du modèle capitaliste, c'est d'un modèle, vous avez dit tout à l'heure, madame, on a travaillé sur un scénario où on maintient de la croissance économique. Mais on le sait bien, et depuis André Gorz, que la croissance économique, elle repose sur la consommation de ressources naturelles et sur la production d'énergie, et elle contribue aujourd'hui, de façon massive, au dérèglement climatique. Il y a une corrélation assez forte entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on voit bien qu'on est obligé de se poser la question du modèle de développement. Alors, quand je dis ça, je vais vous dire, même Bruno Le Maire a dit qu'il fallait réinventer le capitalisme. Ce qui est certain, c'est qu'on va vers un mur qui est un mur brutal. Le scénario sur lequel nous sommes, si on regarde les dernières mises à jour qui ont été faites, c'est pas un scénario de 2 degrés, c'est un scénario de 3-4 degrés. Et là, on sort presque des modèles des météorologues sur l'impact sur notre vie réelle de cette évolution si rapide du climat. Donc je pense que cette question, elle se pose à tous. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont la capacité de réfléchir, y compris à un changement de mode de production, de type de production, parce que ce sera une contrainte. Et parfois, elle arrive. Le secteur aéronautique, aujourd'hui, il s'est pris dans la figure de façon extrêmement violente, pas la crise climatique, mais le Covid.
Et effectivement, il a été demandé de l'aide au gouvernement à l'occasion de cette crise. Et on voit bien que le gouvernement, il y a eu un dialogue avec le gouvernement qui fait qu'on lui a dit, écoutez, on va vous aider. Mais en même temps, il faut faire des investissements de décarbonation massifs. Et il y a ce travail sur l'hydrogène qui est un travail exigeant avec des investissements extrêmement importants. Et donc, on voit bien que là, il y a ce lien entre les deux aide de l'État et décarbonation qui est fait.
Donc, pourtant, on entend souvent, par exemple, un parti comme La France Insoumise, je pense évidemment au député Cartenens, voilà, dire on a saupoudré des milliards, mais on n'a demandé aucune contrepartie aux entreprises. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il y a des vraies contreparties environnementales, par exemple, qui ont été...
Il y a des contreparties environnementales. Ce qui n'est pas très facile, c'est de les écrire de la même façon pour toutes les entreprises. Mais les entreprises ont senti, dès le début de la crise, qu'il y avait une opportunité dans un plan de relance. Elles ont à faire face à un mur d'investissement pour la décarbonation et elles ont demandé au printemps 2020 que l'État mette le plan de l'environnement au cœur du plan de relance. Et au moins 30% du plan de relance ou plus sont consacrés à la décarbonation, ce qui est beaucoup plus que dans des précédents plans de relance. Donc il y a eu ce dialogue. Ensuite, il peut, alors la Caisse des dépôts le fait avec toutes les entreprises dont BPI est actionnaire ou à qui BPI prête de l'argent. Les grandes banques françaises profitent de ce plan de relance pour discuter avec les entreprises qui vont pouvoir en bénéficier. Qu'est-ce que vous allez investir et comment vous faites votre transition? Donc c'est dans les débats aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire que le virage est pris. Alors vous savez, l'économie française, c'est un gros paquebot. Donc le virage, ça se prend pas en une seconde. Mais ce qui est important, c'est que les investissements aujourd'hui de la plupart de ces grands groupes sont consacrés à la décarbonation.
Cécile Dufaux, vous direz-vous que les contreparties en termes écologiques ou sociaux d'ailleurs, elles sont suffisantes vis-à-vis du plan de relance ou même du Green Deal européen?
Alors non, il y a deux problèmes sur le grand plan d'investissement. Il y a d'une part le fait que une partie seulement de ce plan est de l'investissement vert. Il y a parallèlement de l'investissement brun. Donc j'allais dire que finalement, ça nous ramène un peu au sol. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune éco-conditionnalité. Il y en a seulement pour l'agence de participation des participations de l'État, c'est tout. Donc et les autres engagements qui sont des engagements fumeux, on va dire, ne sont pas réels. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il faut aussi revoir un autre pan du modèle. Donc je pense que sur ce point, peut-être qu'on sera pas complètement d'accord avec Madame Tutenu, mais je pense quand même, peut-être même qu'elle peut le penser, mais je pense pas qu'elle pourra le dire, c'est que ce modèle qui pousse à la distribution massive de dividendes pour satisfaire les actionnaires, qui est donc, je l'ai dit, un modèle court-termiste parce qu'il empêche l'investissement, il est allé au bout de son terme. Enfin, j'allais dire que là, on a atteint des niveaux considérables. Et pourtant, ce que nous avons calculé, et c'est une de nos demandes fortes, au moins pour commencer cette régulation-là, c'est de contenir la distribution de dividendes. Si, en 2018, on avait autorisé la distribution que de 30% des bénéfices des entreprises du CAC 40, on aurait financé 98% de leurs besoins de financement en matière de transition écologique. Donc l'argent, il peut être apporté par un financement extérieur, y compris par un investissement de l'État. On n'a rien contre à partir du moment où il est conditionné, mais les entreprises ont aussi des ressources. Et si elles utilisent ces ressources pour investir sur l'avenir en lien avec leurs salariés, en lien avec leurs équipes de développement, plutôt qu'en distribution massive de dividendes, ça peut aussi permettre d'aller plus vite.
On est dans un marché financier assez ouvert, comme vous le savez tous, et donc les entreprises ont besoin aussi d'attirer des investisseurs pour financer leurs investissements, et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc forcément, je pense qu'aujourd'hui, elles ont quitté la logique de maximisation des dividendes et elles sont dans une logique de minimisation des dividendes pour au contraire garder de l'argent et de la capacité de financement pour leurs investissements de transition. Parce qu'elles sentent très très bien qu'il y a ce mur d'investissement et qu'il faut qu'elles fassent cette transition le plus vite possible. L'équilibre est assez compliqué entre ce court terme du marché et du marché financier et le long terme de l'investissement. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut changer des choses dans le modèle économique dans lequel on est. Et effectivement, l'une des solutions, c'est par exemple de donner un prix au carbone. Et ça, c'est un mécanisme qui fait que mécaniquement, le système va réduire les émissions de la même façon que quand on a fait payer le traitement des eaux usées, eh bien, on a réduit les eaux usées qui allaient dans les rivières. Donc il faut arriver, on est sur quelque chose du même ordre.
Vous dites que la transition, si je peux m'exprimer ainsi, Claire Tutenu, est engagée sur cette idée de distribution des dividendes, d'être vraiment orientée là-dessus, qu'on est en train d'évoluer. Et pourtant, il y a cette semaine encore cette affaire Emmanuel Faber, le PDG de Danone, qui a été débarqué. Alors, l'affaire est compliquée, mais on dit que c'est l'impact de fonds d'investissement dits activistes qui investissent de façon souvent minoritaire dans des grandes entreprises et qui ne regardent que les chiffres, finalement, que les chiffres de... Des actions et pas forcément comment fonctionne ou ce que fait l'entreprise, et que donc les orientations prises par Emmanuel Faber en matière environnementale ou sociétale, en tout cas que Danone avait l'air de prendre ces derniers temps, ont été sanctionnées par les actionnaires.
Je peux pas me prononcer sur le cas de Danone parce que je pourrais s'il était membre de PE, mais je connais pas suffisamment la situation, donc je m'abstiendrai de commenter là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les exigences des fonds peuvent être assez contradictoires et il ne manque pas d'exemples de fonds qui demandent à la fois de l'environnement et des dividendes.
Cécile Dufeu, comment faire pour que ces fonds qui demandent de l'environnement prennent le pas sur ces fonds qui demandent des dividendes?
Moi, je crois qu'on a une nécessité de régulation. Parce que là, pour le coup, je suis d'accord avec Claire Tutenu qui dit on est dans un marché mondialisé, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, alors il faut du rendement, etc., etc. Sauf qu'en fait, ça, c'est idiot. Pardon. Enfin, c'est pas vous qui dites une chose idiote. C'est cette réalité-là qui est idiote. C'est une réalité qui nous emmène dans le mur d'un modèle complètement absurde. Donc, on sait déjà, et d'ailleurs, le risque, il existe. Hein. Aujourd'hui, on a évalué qu'il y a 20 000 milliards de dollars. Donc c'est 8 fois le PIB de la France qui sont des valeurs boursières d'entreprises carbo-intensives. Donc avec potentiellement là aussi des crises qui sont des crises d'une ampleur extrêmement grande. Donc aujourd'hui, un autre chiffre pour vous montrer la folie de cette situation, il y a un quart des entreprises du CAC 40, pendant les 10 années avant la crise qu'on vient de vivre, qui ont versé plus de dividendes qu'elles n'ont fait de bénéfices. Donc quand vous avez des actionnaires qui réclament des niveaux de dividendes qui sont même incompatibles avec le financement, le fonctionnement normal et la capacité normale de dégager des bénéfices, on voit bien que en piochant dans les réserves, on a atteint un système qui fonctionne plus. Donc il faut remettre de la régulation publique dans ce système et de façon, j'allais dire, très ferme. Après, on peut aller un pas plus loin. Vous avez dit la solution, c'est de faire payer le carbone. Je crois que le système pollueur-payeur, qui est l'idée finalement qu'on va pouvoir réguler le capitalisme par ce mécanisme, crée des trappes d'échappement de la même manière que vous avez des paradis fiscaux qui sont problématiques. Donc la question aujourd'hui qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit. Et donc il va falloir aller vers une logique où on va se dire il y a un certain nombre de productions qui ne sont plus possibles. On n'a pas le droit de produire un certain nombre de produits qui sont de l'amiante par exemple, parce que c'est dangereux pour la santé. Et ben de plus en plus, il va falloir réfléchir sur savoir qu'est-ce qu'on produit. Il va falloir, je pense, on parle de Danone, ça n'est pas logique de continuer à produire autant de plastique, autant de contenants en plastique pour l'alimentation. Il va falloir changer ce modèle-là. C'est une nécessité pour tous. J'allais dire, si on se pose une seconde, on y réfléchit. Donc, comment permettre aux entreprises ou les contraintes de retrouver du court terme? Ça me semble une nécessité
du long terme,
la décision et d'arrêter d'être otage, ça me semble nécessaire. Et moi, je peux un peu parler de Danone parce qu'on s'est penché sur le sujet. Parmi les éléments du nouveau pacte, etc., qui a été négocié, figure la réindexation des salaires des dirigeants de Danone sur le cours de l'action. Et ça, il nous semble que ça a été quand même une erreur assez funeste d'avoir cette espèce de lien qui s'est fait entre le top management et le niveau des actions et distribution de dividendes, parce que on n'a plus de logique d'investissement, de logique même parfois industrielle et de moyen terme, voire de long terme. Donc il faut remettre de la régulation, et de la régulation assez forte, par d'autres méthodes d'analyse des entreprises, d'autres obligations extra-financières, et aussi par des régulations législatives, le cas échéant.
Claire Tutenu, est-ce qu'il y a là un terrain d'entente, finalement, retrouver du long terme, recourir à la régulation?
Il y a un moyen de réconcilier les actionnaires
et Oxfam,
qui est les marchés. Je veux dire que quand les marchés, et je pense que c'est extrêmement important, le marché du véhicule électrique, on voit qu'il commence à prendre, il est encore sous contrainte, hein, il prend parce qu'il y a de la contrainte réglementaire. Mais le jour où le marché va commencer à dire oui, finalement, c'est une bonne façon, ou des nouveaux modes de transport, eh bien, l'action des entreprises monte et le marché croît. Donc ça réconcilie ce problème de trouver du financement, d'être attractif pour les financiers et en même temps de faire la transition. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les trois piliers arrivent à se causer et à bouger à peu près en même temps, parce que on peut pas juste fermer. Les entreprises, elles essayent d'exister, elles essayent de poursuivre leur vie, elles ont des salariés, voilà, et donc elles servent des marchés. Et donc le problème, c'est d'arriver à faire en sorte que les marchés réagissent assez vite et attirent ces investissements, prennent les nouvelles solutions qui vont être proposées, et c'est le cas un petit peu, mais c'est pas le cas très vite non plus. Donc le fait d'associer, ce qui me paraît extrêmement important, c'est d'associer effectivement les citoyens, les consommateurs, à ce que d'ailleurs disait Cécile Duflot sur des changements de pratiques, des changements de mode de vie, etc. Et donc et là, on va avoir une réconciliation de l'économie et de la décarbonation.
Je ne crois pas au capitalisme vert. C'est pas le mot vert le problème, c'est le capitalisme. Faut comprendre la logique.
France Culture.
Quand vous avez du capital à placer, vous le placez là où il y a les meilleurs rendements. Je veux dire, c'est votre métier, vous êtes payé pour ça. C'est pas un complot.
Le temps du débat du samedi.
C'est-à-dire, on fait ce qui profite tout de suite, et puis le reste, on verra.
Raphaël Bourgois.
Le capitalisme vert est-il un mirage? C'est la question que nous posons dans le temps du débat à 18h40 sur France Culture avec deux invités. Cécile Duflo, qui est la directrice générale d'Oxfam France. Oxfam qui a publié cette semaine un rapport CAC degré de trop qui, critique, pointe du doigt, l'expression n'a pas été appréciée, mais malgré tout c'est un peu ça, les grandes entreprises et leur l'activité sur le climat. Et Claire Tutenu, qui est la déléguée générale d'EPE, Entreprise pour l'Environnement, une association qui rassemble justement une cinquantaine d'entreprises en France, dont la moitié du CAC 40, pour justement leur permettre d'avancer sur ces sujets écologiques. Alors on entendait Jean-Luc Mélenchon à l'instant dans la virgule qui remettait en question finalement, et on en a beaucoup parlé, le modèle, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails dans votre rapport, Cécile Duflo, et notamment parmi les entreprises les plus polluantes que vous indiquez, il y a les trois grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, et qui sont épinglées, on peut dire, à cause de ce que vous appelez la pollution indirecte. Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer ce que vous entendez par cette pollution indirecte ?
Alors, ce qu'on entend par cette pollution indirecte, c'est ce qu'on appelle techniquement le scope 3, c'est-à-dire les émissions qui sont produites par les décisions, si vous voulez, pour dire les choses assez simples, assez simplement, vous avez les émissions directes, par exemple pour l'essence totale, l'extraction du pétrole, et puis ensuite vous avez les émissions qui sont produites quand le pétrole est brûlé, enfin l'essence est brûlée par les véhicules. Et donc là, les banques, directement, leur activité, c'est leur serveur informatique, leur bureau, etc. Mais leur choix d'investissement, l'endroit où elles investissent leur argent, et donc là, j'ai entendu ce que disait Claire Tutenu sur le fait de réconcilier par le marché, ça ne marche pas, parce que justement, on voit bien que pour l'instant, une partie des banques françaises investissent massivement, toujours aujourd'hui, dans ce qui est le plus polluant, à savoir l'industrie fossile, parce que ça rapporte. Donc la question, c'est qu'il faut qu'une partie de cette activité, c'est pas seulement que ça rapporte moins, c'est que ça soit plus possible. Et là-dessus, les entreprises peuvent bouger. Enfin, je veux dire, American Express, que tout le monde connaît, c'est une petite carte en plastique qui sert à payer, ça a commencé par être une entreprise de diligence. C'est devenu ensuite une entreprise de transport de fonds, et puis ensuite, elle a évolué. Nokia, il faisait des bottes en plastique. Shell, il faisait du commerce de coquillages. C'est d'ailleurs pour ça que leur logo ressemble à celui qu'on connaît. Donc, les entreprises, elles peuvent évoluer. Et quand on connaît aujourd'hui Air France qui s'est spécialisé dans l'aérien, il s'est spécialisé dans l'aérien notamment parce qu'une grande partie des analystes financiers considéraient qu'il fallait que les entreprises soient ultra spécialisées sur leur core business. Alors qu'autrefois, Air France avait tout un panel d'activités, notamment avec des hôtels, une chaîne d'hôtels, etc. Donc, repenser le type de production, c'est très important et ça ne se joue pas que par les marchés, ça se joue aussi par la régulation en disant, il va falloir que les fossiles restent dans le sol, donc les entreprises qui travaillent sur ce secteur, et oui, on va les accompagner, et oui, on va accompagner les salariés, bien évidemment, mais il faut changer de modèle d'activité. Et on ne pourra pas remplacer le modèle actuel par un modèle à bas carbone, je m'explique, en termes d'identité, de mode de fonctionnement identique. Si on voulait faire le même parc automobile qu'aujourd'hui à l'hydrogène, il faudrait deux fois la production d'électricité actuelle. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire croître notre sobriété, qu'il faut faire croître pas seulement le recyclage, mais qu'il faut faire croître la réutilisation. Enfin, ce nouveau modèle-là, il peut être fait par des entreprises. Historiquement, ça a déjà été fait. Mais il faut sortir de cette logique extrêmement mercantile et court-termiste qu'impose le système capitalistique actuel, financier et brutal. Et dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, pour une part, il y a une phrase qui est très vraie. C'est que quelqu'un qui place son argent, il attend les rendements les plus élevés. Et d'une certaine manière, pour certains d'entre eux, on le voirait, peu importe les conséquences. Et ça, c'est pas admissible. En tout cas, la société dans son ensemble, et c'est ce que nous demandons, ne doit pas le tolérer.
Claire Tutenu, tout à l'heure, vous aviez l'air de remettre un petit peu en cause cette idée de pollution indirecte. Est-ce que, comme vient de le dire Cécile Duflo, ça permet pas tout de même, en effet, de pointer du doigt une économie qui est très dépendante des énergies fossiles aujourd'hui?
L'économie comme je l'ai dit, tout le monde est d'accord sur le fait que la France n'est pas aujourd'hui sur la trajectoire de l'accord de Paris. Quand on voit les chiffres pas seulement que c'est dans le rouge, mais quand on voit les chiffres absolus, on se rend compte qu'à force de regarder les émissions indirectes des banques, si on additionne les émissions des trois banques qui sont en haut du rouge, là, on a six fois les émissions de la France et trois fois les émissions des Français.
C'est vrai.
Certes, elles sont un peu à l'extérieur, mais je veux dire, oui, en effet, c'est la les trajectoires de ces trois banques représentent, et au-delà, parce qu'il y a peut-être une sélectivité dans ce qui a été pris, à mon avis encore plus que la trajectoire de l'économie française. Donc il y a un petit peu, je veux dire, si on avait voulu pointer les banques, on aurait fait comme ça. Je remarque d'ailleurs qu'il y a AXA par exemple n'y est pas. Donc c'est, je veux dire, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, parce que si on regarde Vinci, qui est moins rouge, Vinci, il a des autoutes et des aéroports, donc on prend pas, et puis il construit beaucoup de bâtiments, donc on prend pas pourquoi on a pris moins, à mon avis, on a été moins loin dans le côté indirect des émissions qu'on a pris pour d'autres entreprises que pour les banques. Donc, mais globalement, oui, on est loin. Après, il y a ce que disait Jean-Luc Mélenchon est vrai et pas tout à fait vrai. Il y a aussi un marché financier. Je veux dire, il y a beaucoup d'épargnants. Et ces épargnants, ils ont aujourd'hui le choix entre aller chercher le rendement maximum pour leurs économies ou aller chercher de l'investissement socialement responsable. Et c'est vrai que c'est relativement récent, mais depuis 2 ou 3 ans, toutes les banques, y compris les trois grandes banques françaises que vous avez pointées, ont maintenant une offre et ont formé leurs conseillers financiers à présenter ces offres de fonds de développement durable, de fonds décarbonés, d'obligations vertes aux épargnants et aux gens qui ont de l'argent à placer, donc et aux fonds de retraite, et etc. Donc il y a aujourd'hui aussi une orientation des flux financiers qui va plus sélectivement vers la décarbonation de l'économie que simplement la maximisation du profit.
Cécile Duflo, vous disiez, c'est pas vrai, on peut dire, faut pas faire dire n'importe quoi aux chiffres. Qu'est-ce que vous répondez à Claque Tutonui qui
s'inquiète? Non, on fait pas dire n'importe quoi aux chiffres. Justement, on essaye de savoir ce qu'il en est réellement. Parce que sinon, on discute, c'est un peu une discussion de marchand de tapis en disant oui, mais autoroute contre machin. Le problème et l'intensité carbone des banques, c'est qu'elles investissent directement dans les fossiles. Et ça, c'est un vrai gros sujet. C'est-à-dire qu'elles contribuent à extraire davantage de ressources fossiles du sol. Et plus ces ressources fossiles sont à bas coût, moins l'intérêt économique est de ne pas y avoir recours. Après, je voudrais prendre un exemple pour comprendre pourquoi il faut changer de logique. Si on va vers cette logique-là de « il y a des marchés, une réalité », il y a des pays où les enfants travaillent dès l'âge de 10 ans et ils sont à peine payés. Et ils travaillent la nuit. C'était comme ça en France. C'était comme ça en France. Et d'ailleurs, une partie des arguments de ceux qui refusaient, dans les débats parlementaires, l'interdiction du travail des enfants, disaient « mais vous vous rendez pas compte, les entreprises françaises vont être en difficulté. Parce que les autres, ils font travailler les enfants. » Et à un moment, on a dit « c'est comme ça, les enfants, ils travaillent pas, ils vont à l'école. Point. » Sur plein de choses, on a dit « c'est comme ça, on travaille pas 7 jours par semaine, c'est comme ça, on a droit à des vacances. » C'est-à-dire qu'on a fait avancer par la réglementation. En matière de lutte contre le dérèglement climatique, il faudra faire la même chose. Il faudra dire « il y a des choses qui sont plus possibles ».
Vous parlez au futur, Cécile Duflo, mais est-ce qu'on n'est pas quand même malgré tout dans ce moment où on essaye de faire comme ça
Bien, pas du tout suffisamment. C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, les banques, on est encore sur un scénario de volontariste. C'est-à-dire que il n'y a pas la contrainte très claire qui pourrait être celle qu'aurait décidé l'État. D'ailleurs, Bruno Le Maire avait dit il y a 2 ans que si les banques n'y allaient pas seules, il prendrait la décision de dire, vous ne pouvez plus, vous, banque française, et les banques françaises, c'est pas rien. Je vous remercie d'avoir cité le chiffre de notre précédente étude sur les banques, Madame Tutenui, sur l'impact des banques françaises, parce que parmi les banques françaises, il y a parmi les plus grandes banques mondiales. Et donc, l'impact de leurs décisions sur l'ensemble du monde est pas nul, même très significative, dont la plus grande d'entre elles, BNP Paribas, les deux plus grandes, la BNP et la Société Générale. Donc je crois vraiment que la question de la réglementation se pose, et presque, si j'étais un peu taquine, je dirais ça va aider certains dirigeants d'entreprise. Quand ils seront sous la pression de leurs actionnaires, on leur dira c'est pas possible, vous nous demandez de faire ça, mais nous on n'a pas le droit, point.
Oui, moi j'ai envie de dire oui, mais on ne peut pas non plus dire « ah oui, il n'y a qu'à faire de la réglementation ». La réglementation, il faut qu'elle soit acceptée par les citoyens. Et la réglementation qui va consister à dire « ok, mais le pétrole, il y en aura moins, ou ça va aussi, ou il faut plus prendre les transports en commun. Il y a des gens qui vont trouver ça désagréable. Donc la réglementation, et je suis très contente que vous abordiez ce point, parce que en effet, la réglementation doit modifier, créer un cadre qui fait qu'on puisse faire de la croissance tout en étant décarboné. Donc ça peut être avec du prix du carbone, ça peut être avec d'autres politiques et mesures. Il n'y a qu'à voir toutes les mesures qui ont été proposées par les citoyens de la Convention, qui ont proposé beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, leur grand mérite, c'est d'avoir compris ça, d'avoir dit oui, en effet, il faut faire des choses qui changent nos modes de vie par la réglementation.
Je signale que vous avez suivi, hein, vous avez été conseillère justement.
J'étais dans le groupe d'appui, effectivement, donc pour les aider sur des points techniques, sur l'impact de leurs mesures sur les émissions. Donc, mais ils ont fait effectivement un travail consistant à réaliser qu'en effet, on ne pouvait pas dire « Ah oui, il n'y a qu'à faire une réglementation » ou « Ah oui, il n'y a qu'à faire qui contraindre les entreprises ». Ils ont bien compris que c'était tout le monde. Et je pense que c'est extrêmement important d'accepter ça et que chacun se dise « Ah oui, s'il faut tout le monde, il y a peut-être moi aussi dedans ».
Oui, mais un mot là-dessus, Claire Tutenu, avant de passer la parole à Cécile Duflot. Justement, la Convention citoyenne pour le climat tenait dimanche dernier sa dernière session et ils ont regardé la loi climat et résilience qui est présentée par le gouvernement et qui passera à partir de lundi en commission spéciale avant d'arriver à l'Assemblée nationale fin mars. Et ils ont mis une note quand même assez mauvaise de 3,3 sur 10 sur la reprise de leur proposition. C'est-à-dire que on a l'impression malgré tout que la volonté politique, elle est un peu prise entre l'affichage, la volonté en effet d'associer les citoyens, d'aller vers plus d'environnement et en même temps une peur peut-être liée, je sais pas, aux gilets jaunes qui était un mouvement social déclenché par une taxe carbone, peut-être déclenché par autre chose. Comment vous voyez ça, vous, Claire?
Je pense que les pouvoirs publics ont un peu le même problème que les entreprises, qui est de faire l'arbitrage entre le court terme et le long terme, avec des échéances de court terme proches et importantes et des désidérata de long terme. Donc le combat écologiste ou l'effort écologiste est quelque chose qui se fait dans la durée et il faut effectivement jamais perdre ce long terme de vue. Et c'est sûr qu'on peut espérer que à l'occasion de prochaines échéances ou campagnes, il y aura d'autres mesures que celles qui sont aujourd'hui possibles de mettre dans la loi climat-résilience, mais qui quand même apportent, élargissent le champ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mesures qui disent, par exemple, il faut mettre la décarbonation, la transition écologique dans la formation professionnelle systématiquement. Et ça, c'est une mesure qui est une mesure de fond, qui va dans un sens de transition et d'évolution assez large. Alors qu'avant, on pensait que c'était juste les énergéticiens. C'est pas juste les énergéticiens, c'est tout le monde, les transports, l'habitat, etc. Donc voilà, il y a des mesures de fond qui sont extrêmement utiles. On pourrait penser qu'on aurait bien sûr, on aimerait que ça aille plus vite. Mais il y a des contraintes de court terme et chacun a des arbitrages, y compris vous et moi. Enfin, voilà.
Cécile Duflot, sur cette loi climat et résilience, on dit qu'elle est insuffisante. Alors, c'est pas.
Si vous me permettez, oui, bien sûr. Les gens, ça va les embêter un peu. Moi, ce que je voudrais dire, et c'est ça qu'il faut comprendre maintenant, et je pense que contrairement à ce que dit Madame Tutenu, les gens l'ont très bien compris, et l'élément le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé à la Convention climat. Parce que qu'est-ce qui va les embêter? Moi, si je vous dis Gabriel, on va prendre Gabriel. Gabriel a 4 ans aujourd'hui, donc il est déjà là, c'est déjà un petit garçon. Si on reste sur le scénario sur lequel on est, à plus de 4 degrés, avant que Gabriel soit un vieux monsieur, un très vieux monsieur, il aura 80 ans, la France, ce sera un pays dans lequel les vagues de chaleur se sera quasiment 100 jours par an en région parisienne. Ce sera un pays dans lequel les incendies de forêt auront quasiment été multipliés par 2. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant que se poser la question de faire évoluer nos modes de transport. Et je le dis, je pense que les gens de la Convention citoyenne, ils sont les parents, les parrains, les marraines, les grands-parents de plein de petits Gabriel. Et ils ont compris ça. Et donc, cette Convention citoyenne a été créée pour dire, vous voyez bien, la taxe carbone, ça marche pas, l'acceptabilité est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il se passe que ce sont les citoyens qui disent aux politiques, franchement, vous n'êtes pas allé assez loin, vous avez, ils ont noté à 3, je crois, au final, 3, le travail qui est
fait. 3,3, oui.
En disant, vous n'avez pas fait tout ce... Alors que même une grande partie d'entre eux n'était pas sensibilisée à cette question. Donc je pense que parfois, on dit que les citoyens sont pas prêts, et c'est pas vrai. Simplement, il faut prendre les choses à bras-le-corps et prendre l'ensemble des sujets simultanément. Et c'est vraiment très regrettable. J'allais dire que cette Convention citoyenne, pour moi, c'est une espèce de bouffée d'espoir considérable, parce qu'on aurait pu croire que finalement, on allait se rendre compte qu'on était dans un espèce de ciseau impossible entre ce que les gens allaient supporter et accepter, et ce qu'il fallait faire pour faire face au changement climatique. Mais c'est là où ça peut être un peu rageant, pardon, c'est que non seulement on sait ce qui risque de nous arriver, on sait ce qu'il faut faire techniquement, financièrement, et c'est accessible. Et maintenant, on sait, et les tout derniers sondages, celui publié par Elab, mais le travail qui a été fait par Maureen Common le montre aussi, et le sondage qui a été fait au niveau international le montre, l'immense majorité de la population mondiale est d'accord avec la nécessité de changer. Donc maintenant, c'est la responsabilité des décideurs politiques, mais aussi des décideurs économiques. Ils ne peuvent pas se cacher derrière le petit doigt des gens qui disent ben oui, mais les citoyens ne sont pas complètement d'accord. En fait, ils le sont. Mais ils disent, aidez-nous et faisons-le ensemble.
Claire Soutenu.
Bon, je crois que les citoyens, ils ont plusieurs postures. Il y en a qui sont très engagés, il y en a qui sont conscients qu'il va falloir faire quelque chose et qui réfléchissent et qui savent pas trop quoi, par où commencer. Puis il y en a qui restent quand même un peu réticents sur le thème. Après moi, le déluge, ça existe. Mais ce qui est très extrêmement important, c'est effectivement de comprendre qu'il y a dans les missions des pouvoirs publics et dans l'attention avec laquelle on peut faire passer des mesures réglementaires ou du prix ou économiques comme un prix du carbone, l'équité, l'aide aux plus vulnérables, le fait de faciliter la transition tant des entreprises qui ont un problème de survie dans cette transition. Donc on a fermé le charbon dans les années 70 et 80 et là il va falloir transformer beaucoup plus que simplement un secteur comme le charbon, la mobilité, l'habitat et l'alimentation et d'autres, et la production de biens et de services, avec des transitions à faire qu'il va falloir aider pour les plus vulnérables, pour les personnes comme pour les entreprises. Mais du moment qu'il y a une compréhension de cet effort et de l'urgence de l'effort, moi, il me semble que c'est encore possible de tenir cette trajectoire de l'accord de Paris en préservant la croissance et en préservant des modes de vie diversifiés et confortables.
Espérons-le. Cécile Duflo, un mot très rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette émission. Malheureusement, vous, Oxfam faisait partie des parties civiles dans l'affaire du siècle. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui reprochait à l'État son inaction climatique. La loi PAC de 2009 a modifié le code civil, son article 1883 pour être très précis, sur la gestion des sociétés en introduisant l'idée qu'il fallait prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. La question est simple, est-ce que vous envisagez de porter sur le terrain judiciaire, contre les entreprises aussi, cette question de l'inaction climatique ?
Mais nous, d'abord, on utilise la voie judiciaire comme un des éléments des pouvoirs démocratiques qui existent dans nos sociétés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons et face à laquelle le mur s'approche à des responsables. C'est pas une fatalité, hein. C'est pas tout d'un coup, c'est ni naturel. La responsabilité de l'homme est engagée, mais c'est pas une fatalité. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ceux et celles qui sont en situation de prendre leurs responsabilités aujourd'hui ou de manquer à leurs responsabilités soient mis devant cette situation. Donc oui, on s'interdit pas de mettre en cause des responsables d'entreprise parce qu'ils ont une responsabilité grande. Et je voudrais dire un petit point qui a pas été dit et c'est sans doute le plus désagréable. On peut dire que c'est compliqué pour les entreprises. On peut dire que ça nécessite une régulation et une adaptation et un soutien par l'État. Pourquoi pas ? Mais le problème que nous avons, c'est qu'une grande partie de ces entreprises consacre une énergie, et ça s'est vu d'ailleurs dans le cadre de la Convention citoyenne, considérable, à empêcher ou à freiner les prises de décision. Alors, on le sait très bien sur la question agricole et sur la question de l'industrie chimique dans l'agriculture, mais on le sait aussi maintenant sur ce qui a été fait notamment aux États-Unis, mais qui est beaucoup fait en Europe, sur la question des mesures de régulation, en particulier sur les questions énergétiques. Donc, je pense que là, il y aura une faute constituée de la part de celles et ceux qui vont
on n'a pas le temps
lire les réglementations et jouer un rôle qui est un
on
rôle
pas le temps de
qui
commencer pardon, on arrive au bout, on n'a pas le temps de commencer un débat sur le rôle des lobbies, mais juste une réponse très rapidement, Claire Tutenu, à ce que vient de dire Cécile Duflo, c'est cette question de la responsabilité des chefs d'entreprise.
On a parlé de ce difficile ajustement de la vitesse de transition. Je pense qu'il y a effectivement pas forcément un accord entre les desiderata des groupes les plus écologistes comme Oxfam et ce que les entreprises considèrent comme possible. Mais je pense que plus on aura une maturation de l'opinion publique sur ces sujets, plus le virage qui est pris va s'accentuer, se voir et donner des résultats.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission qui malheureusement touche déjà à sa fin, à la prise de son ce soir. C'était Jean Guilin Meige à la réalisation, Vanessa Nadjar. Merci infiniment à Siam Boutata pour son aide à la préparation de cette émission. Lundi, le temps du débat avec Emmanuel Laurentin posera la question « La politique se grandit-elle avec la Covid. Avant cela, votre prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est demain L'Esprit Public, Émilie Aubry, avec deux sujets. Affaire Sarkozy, chacun cherche l'état de droit. France-Algérie, Emmanuel Macron et la réconciliation des mémoires. Voilà, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette pour ses politiques. Bon week-end à toutes et à tous, à l'écoute de France Culture, évidemment.